Vous avez écouté Trio Formation Française, c'était la chanson Kojima. Et puis, vous écoutez toujours Delirium Environnemental, le magazine d'information en environnement. D'ailleurs, à ce sujet-là, on poursuit la revue de presse, revue de l'actualité. Ah, encore beaucoup de nouvelles. Un bloc qu'on a eu le goût d'appeler le bloc M-A-R-D-E. Je n'ose pas le dire. Que voulez-vous?
M-A-R-D-R-E. C'est plus tantôt qu'on dit des DRE.
DRE, peut-être. M-A-R-D-R-E. Bref, on parle de fumier et on parle de Bennett Environnement, cette compagnie qui construit exactement, qui construit un incinérateur à sol contaminé dans la baie des Chaleurs, en fait, juste à côté de la baie des Chaleurs. Ça, c'est au Nouveau-Brunswick. On se souvient de la coalition Retour à l'expéditeur qui avait crié haut et fort pour dire, mais ça n'a pas de bon sens. Avant de parler de belles dunes, commençons donc par parler fumier parce que ça a fait jaser ces derniers temps et pour de bonnes raisons, on semble, Nicolas, tu m'expliques un peu la situation, le tas de fumier pose problème.
Ben oui, Scarlett, puis je vous dirais, okay, le problème du tas de fumier en soi est peut-être pas la chose la plus révoltante qu'il y ait eu dans notre province en...
Ça dépend de la grosseur. Hein?
Ça dépend de la grosseur parce qu'on sait que ça peut attirer les mouches. Ça, c'est pas le... Mais bref, là n'est pas la question. C'est plutôt ce qui a entouré la façon dont c'est fait cette chose-là. Vous voyez, ça fait plus de 20 ans que les gouvernements du Québec retardent l'adoption d'un règlement visant à interdire l'entreposage des déjections animales en tas de fumier derrière les petites granges. Puis souvent, ça touche juste les petites granges. C'est très rare que des méga installations qui sont, elles, plus soumises à des normes, bon, on va dire, sévères en environnement, même si elles ne sont
on
pas nécessairement sévères, mais ça affecte peut-être plus les petits agriculteurs. Mais ce qui arrive, c'est que un tas de fumier qui reste en arrière de ton étable, écoute, quand la pluie tombe, ça coule puis ça s'en va direct dans le ruisseau. C'est pas compliqué, ça pollue, c'est une pollution qui est très, très directe et très, très néfaste pour l'environnement. Et ça fait 20 ans que, suite, entre autres, au lobby très puissant de l'Union des producteurs agricoles du Québec, eh bien, il n'y a aucun gouvernement qui va de l'avant. Et là, cet été, en plein mois de juillet, eh bien, on a un projet de règlement qui est passé dans la Gazette officielle du gouvernement du Québec.
Monsieur Wilker se sentait inspiré.
Et c'est drôle comment on a beaucoup d'inspiration au mois de juillet. Je sais pas, mais en tout cas, ça a l'air que les ministres, eux autres en vacances, ils pensent beaucoup, surtout à ce qui peut être controversé. Donc, on fait passer ça. Il y a quand même eu 60 mémoires de déposés contre le projet de règlement. Mmh. Et de ces 60 projets de mémoire-là, aucun n'a été rendu public.
Donc, c'était plus large quand même, c'était un gros règlement.
C'est un règlement qui, dans le fond, visait l'entreposage et l'éjection animale en milieu agricole. Et il y avait cette partie-là de règlement qui touchait, dans le fond, les fameux tas de fumier. Et bref, malgré toute l'opposition qu'on avait, tant du milieu des agronomes que du milieu d'experts environnementaux, que du milieu même de certains producteurs agricoles qui, eux, voyaient dans certaines normes du règlement des problèmes, bien, on a essayé de garder ça le plus discret possible, faire en sorte que de nombreuses modifications passent inaperçues. Dans ces modifications, par exemple, on a celle que ce qui est interdit maintenant dans le nouveau règlement, ce n'est pas de mettre un tas de fumier en arrière de chez vous, mais c'est que le tas de fumier contamine de manière significative les autres surfaces. Comment prouve-t-on qu'un tas de fumier contamine de façon significative une autre surface? Quand le mal est fait. Alors, il y avait une série de petites entourloupes comme ça à ce projet de loi qui était, ma foi, au début, très étoffé, mais qui a été grugé tout au long de l'été et qui a fait en sorte qu'on essaie d'en passer une belle petite vite. Merci beaucoup. On lui doit quand même plusieurs dossiers comme ça à Louis-Gilles Francard du Devoir, qui fait un petit travail de recherche, qui va chercher, dans le fond, les petits accros comme ça en matière d'environnement, puis qui est fait sortir à la lumière du jour. Un autre merci. Je pense qu'on t'adoit celle-là.
Ben, ma foi du Saint-Louis-Gilles, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi c'est justement anonyme ou on n'a pas accès à ces informations-là de mémoire? Pourquoi c'est gardé justement dans les dédales du gouvernement?
Ben, ce qui arrive, c'est qu'il y a une procédure officielle qui est celle du Bureau de l'Agence publique en environnement où est-ce que quand un projet est régi par le bureau, tout ce qui se fait est rendu public automatiquement. Maintenant, quand c'est un projet de réglementation qui passe directement à l'Assemblée nationale, disons que c'est laissé un peu plus à la discrétion du porteur du règlement. Dans ce cas-là, c'était M. Thomas Mulcair. Qui est très discret, comme il l'était pour ses ordinateurs portables. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais bref.
On l'entendra en bref.
Certainement. Mais bref, on voit, dans le fond, quand un groupe puissant au Québec, en l'occurrence, l'Union des producteurs agricoles, a mémé sur certaines réglementations ou certains espoirs de réglementation et que, dans le fond, un groupe de pression peut faire changer les choses. C'est un cas flagrant.
Juste pour terminer rapidement, donc, est-ce que cette nouvelle réglementation fait maintenant force de loi ou c'est toujours en tergiversation?
Elle était supposée entrer en vigueur en fin de semaine. Les oppositions sont faites sentir vendredi passé, donc il y a un léger sourcil. On va en savoir plus, je crois, la semaine prochaine.
Et tu nous tiendras informés de tout ça, Nicolas Milon.
J'aime ça, venir informer des tas de fumier.
Oui, c'est toujours magnifique. Oui. Le temps fait la vitesse.
On pourrait mettre une image en lien sur notre site. D'ailleurs.
Voici du fumier à l'œuvre. Poursuivons sans plus tarder parce que le temps fait la vitesse incroyable. Comme toujours, si on pouvait faire pause des fois dans la vie, ça serait bien. Alors, on poursuit sur, on se souvient, on en a déjà parlé, ceux qui connaissent pas encore le dossier, la baie des Chaleurs, c'est une très belle région du Québec, juste à côté du Nouveau-Brunswick, pas dans le bas du fleuve, à ce place-là, ça s'appelle la Gaspésie. Et puis, une compagnie états-unienne, si ma mémoire est bonne, non, Bennett Environnement, qui est une compagnie qui brûle des déchets à temps perdu, veut construire, en fait, a construit un incinérateur pour brûler des sols contaminés, notamment au créosote, qui est un produit toxique. Et aux hydrocarbures également. Mobilisation citoyenne, entre autres des gens qui se nomment la coalition Retour à l'expéditeur, avait fait brasser, avait fait bouger un peu le dossier. Par contre, on était à essayer justement voir si les processus de brûlage étaient au point.
Eh bien, ils n'ont toujours pas obtenu justement leur autorisation de brûler parce que les tests de brûlage n'ont pas été faits avec justement ces fameux terres contaminées au créosote et aux hydrocarbures. Par contre, le gouvernement du Nouveau-Brunswick, on se souvient qu'il y avait toute une histoire alentour de ça, que c'était pas très clair la transparence du gouvernement. Donc, finalement, le gouvernement ne pouvait pas aller de l'avant avec ces terres-là qui étaient censées venir du New Jersey. Eh bien, ils ont trouvé d'autres choses à Sydney, en Nouvelle-Écosse. Ils ont trouvé justement 1500 tonnes de sol contaminé aux hydrocarbures, un ancien site de Dunbar.
Un instant, Patrick, je t'arrête tout de suite. Ça veut dire qu'on va faire venir des sols contaminés qui viennent de l'autre bout de la planète.
Non, c'est Nouvelle-Écosse.
Nouvelle-Écosse, excuse-moi. Nouvelle-Écosse.
J'avais une Nouvelle-Zélande qui avait popé dans ma tête.
Ou Australie.
Excusez-moi,
mais bon, excusez-moi, n'en est pas la question.
Patrick,
toujours est-il qu'on les fait quand même venir, ces fameux sols-là, et l'usine n'était pas, l'incinérateur n'était pas construite pour justement brûler ce genre de sols-là. Donc, on a eu une centaine de manifestants qui ont décidé tout simplement de bloquer la rue, de faire une autre manifestation parce que c'est des gens très actifs là-bas, on se souvient, qui ont fait justement reculer tout le dossier. Et évidemment, tout ça, c'est alentour des 60 000 signatures de gens, 60 000 pour cette région-là. Je vous dis que ça en fait beaucoup. Là. C'est vraiment une grosse mobilisation locale. Donc, des gens de la baie des Chaleurs, du côté du Québec et du Nouveau-Brunswick, se sont mobilisés pour dire « No way, le gouvernement, vous n'allez pas faire venir ces 1500 tonnes de boue toxique-là en provenance de Sydney, Nouvelle-Écosse, parce que vous n'avez pas, justement, fait des tests pour ça et ça pourrait être aussi nocif, dans le fond, que votre autre chose aux créosotes et aux hydrocarbures. Eh bien, chapeau, parce que vous avez bloqué la voie ferrée. Et c'est pas terminé, ils en promettent d'autres. Donc, une grosse mobilisation citoyenne à garder à l'œil, à encourager, peu importe ce qu'ils font, sont souvent, entre autres, dans les médias électroniques présents pour justement manifester et qu'on leur donne leur appui dans différents endroits à Montréal, des fois de temps à autre.
C'est vrai. Vous trouverez toutes les informations, bien sûr, sur notre site Internet à nous, www.radiodelirium.net. Beaucoup d'informations sur le site de, justement, Retour à l'expéditeur, cette coalition de laquelle tu nous parles. Je me souviens que moi, j'avais été traumatisée dans le dossier, justement, de Bennett Environnement, d'apprendre que la Noranda, que c'est déjà une région qui est extrêmement contaminée. La baie des Chaleurs, et pourtant, c'est magnifique. Il y a beaucoup d'agriculture dans le coin. Mais pourtant, c'est extrêmement pollué comme région. Et, entre autres, la Noranda brûle, achète le homard des populations de pêcheurs locales pour éviter qu'il y ait mobilisation citoyenne. Donc, ils assurent d'acheter les homards parce que ceux-ci sont trop contaminés pour être consommés. Est-ce que c'est juste moi qui capote ou il y a quelque chose qui ne marche pas? c'est déjà le temps des brèves à Delirium Environnemental. Il y a tellement de choses desquelles on aurait voulu vous jaser. Excusez-moi, ça sortait pas. Et donc, c'est le temps des brèves, alors on va s'en jaser, mais rapidement, les gars, casser la glace avec des brèves.
Hey, j'ai une nouvelle
autoroute.
Moi, ça
faisait
longtemps.
Vous aimez ça, les autoroutes?
Ah, hein? J'aime ça. Vous savez, il y a le projet d'autoroute 30 sur la rive sud de Montréal, une voie de contournement qui est à l'œuvre devant le BAP, le Bureau de l'audience publique en environnement, pour, dans le fond, être sujette aux commentaires des gens de la région. Eh bien, ça fait absolument pas l'unanimité, mais de deux façons diamétralement opposées, les environnementalistes et les groupes citoyens, eux autres, veulent un parcours plus en ville, c'est-à-dire ne scrapons pas le milieu agricole de la Rive-Sud, alors que d'un autre côté, les industriels et les chambres de commerceux de ce coin-là, eh bien, eux autres veulent une autoroute encore plus en territoire agricole pour enclaver une plus grande portion de terrain qu'on va, dans le fond, convertir en milieu industriel, résidentiel et commercial. Bref, faisons la pièce à Candiac et à Sainte-Catherine et à Carignan.
Wow, quelle belle vision économique. J'aime ça. Continuez. Vous connaissez Tadoussac, c'est une ville où il y a des baleines. Mais il y a d'autres choses de gros qui passent dans ce coin-là. C'est des camions remorques. Au point tel qu'après 4 ans de dur labeur à endurer tous ces camions, eh bien, la municipalité a décidé justement de contrôler le bruit causé par ces centaines de milliers de camions remorques. Quand même, ça en fait beaucoup annuellement. Donc, ils ont décidé de faire des études en compagnie du ministère des Transports. Est-ce qu'il est là? Il est probablement là, du moins je l'espère, sinon demandez-lui de l'argent, pour simplement regarder les nombres de décibels et tenter de faire de prouver que c'est une pollution sonore. Eh bien, j'invite également toutes les gens qui habitent sur la rue Sainte-Catherine à faire de même envers les grosses calices de motos qui ont pas de muffler cette année. Bon, voilà, fallait je le dire.
Moi, je suis vraiment découragée. Moi aussi, les motos, ça me rend complètement folle dans mon quartier. On continue sur les brèves après ce beau témoignage. Merci beaucoup, Patrick.
Eh bien, moi, je me transporte du côté de l'Europe. Vous savez qu'on va peut-être citer une grande perte au niveau international dans le milieu environnemental. Vous savez, en Allemagne, les Verts étaient très présents au gouvernement. Et là, tout semble laisser à croire qu'Angela Merkel et les conservateurs risquent de passer et une coalition sera formée excluant les Verts du Parlement. C'est dommage, car là, on parle de réintégrer le nucléaire, le thermique, Alouette.
Moi, je vous amène sur une petite nouvelle qui n'en est pas une, mais c'est pas parce que ça fait pas la une que c'est pas moins important ou que c'est pas plus important, notamment.
Coupez le micro, coupez le micro.
Non, arrête. OK, vous saviez-vous ça? Pour se conformer à la politique québécoise de gestion des matières résiduelles, les municipalités québécoises devront, d'ici 2008, avoir atteint un taux de récupération de l'ordre de 60 %. Mais c'est pas du tout ça. Présentement, les citoyens et citoyennes à Montréal ont enregistré de légers progrès pour passer à 17,3 %. On est maintenant à 20 % seulement des matières résiduelles qu'on recycle. Ça, là, ça veut dire que c'est du papier, du carton, du verre, du plastique. C'est tous des déchets qui ne sont pas des déchets. Ça va pas à la poubelle.
Eh bien, encore mieux, la Ville de Montréal a décidé tout simplement de ne pas prendre d'engagement pour respecter cette loi-là d'ici 2008. Et elle tente de repousser d'ici 2013. Eh bien, bravo! Quel exemple de développement durable! On va s'en souvenir quand même au moment des élections.
Une petite autre, on a le temps?
Ça marche.
Alors, on est sur les ondes de choc Radio Lugan, mais comme notre devise, c'est prenez position, bien je prendrai position. Vous avez sans doute vu passer cette semaine à Découverte le merveilleux projet de pavillon de l'École Polytechnique, le pavillon La Sonde, un projet vert. On récupère l'eau de pluie, on a peinturé avec des peintures sans produits toxiques, on a fait un toit vert et nous, à l'UQAM, on crée des beaux pavillons qui non seulement n'ont rien de tout cela, on pourra penser au nouveau complexe des sciences, mais qui aussi, et là on pensera aux nos futurs projets de la gare centrale, mise à rentabilité sur l'exploitation d'un stationnement souterrain de 800 nouvelles places au centre-ville.
À côté
bref,
du métro Berry.
On est vraiment loin. Alors, prenons position, c'est ce qu'on fait. Merci beaucoup.
Ça sentait le coup de masse plus que la brève, Nicolas, mais ça va, tu pourras nous en parler tout à l'heure. Moi, j'ai eu une petite période nostalgie. C'était il y a un an, le savez-vous, le prix Nobel de la paix pour la première fois avait été attribué à une militante écologiste kenyane, Wangari Maathai, qui était la première femme africaine à recevoir cette récompense. La dame âgée de 64 ans a fondé en 77 le mouvement de Ceinture Verte, principal projet de plantation d'arbres en Afrique. Alors, merci. Bravo, Madame Maathai. C'était il y a un an, mais c'est pas moins important.
Écoutez, on doit des fois féliciter les bons gestes. Hydro-Québec en a fait un bon la semaine passée.
Patrick Bonin, toi?
Eh bien, oui, je rends à César ce qui appartient à Hydro-Québec. Eh bien, après avoir annoncé des mesures d'économie d'énergie de 3 TWh, je vous épargne les détails, Hydro-Québec a décidé, comme ça, tout bonnement, d'augmenter ses efforts de 30 % ou presque, donc encore plus d'économie d'énergie qu'au Hydro-Québec au niveau des résidences et des grandes industries. Eh bien, comme quoi, à force de taper la tête de quelqu'un, il comprend. Hein?
Ben finalement, ça c'est une belle leçon que tu nous donnes là de vie. À force de fesser, finalement ça marche.
C'est dur, hein, mais bon.
On va s'arrêter ici pour les brèves cette semaine. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir lu pour nous les journaux de la planète en une heure. Malheureusement, vous avez eu le temps de nous parler seulement qu'une petite brève de rien du tout d'informations, mais quand même, ça nous a permis de nous faire une tête sur ces enjeux-là qui me semblent, ma foi, importants. Avant d'aller au coup de cœur, coup de masse au calendrier, cette semaine, Mélanie Roussel a assisté pour nous à un colloque international comparatif qui parlait de la convention d'Aarhus. Donc, au retour, on vous fait découvrir une convention internationale qui vaut la peine d'être découverte, me semble-t-il. De retour à Delirium environnemental, le magazine d'information en environnement. Donc, cette semaine avec nous pour la première fois au micro, mais pas pour la première fois avec nous dans la vie, Mélanie Roussel, ça va bien?
Ça va très bien.
Alors donc, tu as cité pour nous un colloque qui s'appelait, qui était titré « Le droit du citoyen à un environnement propre, une comparaison de l'Union européenne, Québec, Canada ». Notamment, ils abordaient la question de la convention d'Aarhus et moi, j'avais déjà vu rapidement la convention d'Aarhus, mais sans bien la connaître. Donc, peut-être en deux mots d'abord ce que c'est, mais surtout, est-ce que c'est récent cette histoire de convention d'Aarhus?
Bien, en fait, c'est une convention qui porte sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement. Donc, c'est la Commission économique des Nations unies pour l'Europe qui a adopté en juin 1998 cette convention-là à Aarhus au Danemark et c'était ratifié par 36 pays européens en mai 2001. Donc non, ça fait pas tellement longtemps. Par contre, moi, j'ai été bien étonnée d'avoir jamais entendu parler de ça avant, étant en environnement.
Parce que notamment, le Canada n'a pas ratifié, n'a pas même pas signé cette convention-là.
On aurait participé à deux séances d'information, de négociation, mais sans jamais finalement rester en place et participer à tout ça.
De toute façon, c'est pas grave quand on signe quelque chose, qu'on dit quelque chose, on le fait pas. Une de plus.
Ah, je suis à Nicolas Milo, c'est une mauvaise attitude. Pourtant, le Canada, particulièrement le Québec, est reconnu justement pour les différents processus et surtout procédés de participation du public desquels ils sont dotés. Donc, c'est différent. La Convention d'Aarhus, ça concerne vraiment le droit du public à une information de qualité en des temps raisonnable.
Oui, exactement. Une question de délai aussi qui fait une différence avec nous parce que nous, on a quand même des lois sur la qualité de l'environnement, loi l'accès à l'information au niveau provincial, au niveau fédéral, qui nous donnent justement ce droit-là de s'informer, d'avoir accès aux documents, tout ça concernant l'environnement parce qu'on a un droit à vivre dans un environnement sain. Finalement, la différence, ce serait au niveau des délais, mais aussi au niveau de, par exemple, on parlait de communication active, contrairement à passive, dans le sens que présentement, le citoyen doit demander l'information, attendre les documents, attendre un certain délai, tandis que avec une communication active, comme ils disent, ça devrait être les instituts, les organismes, l'État qui produisent les documents et les rendent accessibles directement.
Donc, alors, l'Europe est plus proactive, on n'est pas obligé de courir après les documents comparativement au Canada ou faut courir après, c'est ce que je comprends.
Ben moi, c'est un petit peu plus ça que j'ai compris aussi. À ce niveau-là, je crois qu'on va aussi l'entendre peut-être dans l'entrevue qu'on a.
Oui, bien sûr. En fait, on pourrait peut-être y passer tout de suite parce que Mme Michelot, tu as eu l'occasion d'interviewer Mme Michelot qui travaille notamment pour les Nations unies en droit de l'environnement et qui, justement, explique succinctement de quoi il en retourne et en quoi c'est différent parce que ici, malheureusement, on n'a pas ratifié et on est un peu laxiste quand vient le temps d'informer la population de façon proactive sur les différents contaminants qui se trouvent dans l'environnement.
Exactement.
On vient d'entendre Agnès Michelot, donc, qui était une des conférencières au colloque international qui se tenait à l'Université de Montréal et à l'Université McGill, qui était organisée par le Consortium des études européennes. Donc, ici, comme tu le disais très bien tout à l'heure, nous, on n'a pas ratifié, on n'a pas signé cette convention-là. Par contre, on a certains dispositifs qui sont intéressants quand vient le temps d'obliger la déclaration, quoique le mot « obligé » n'est pas bon ici.
Non, tout à fait. Il faut aussi se dire que le BAP, le Bureau des affaires publiques en environnement, est très souvent cité partout dans le monde comme étant un exemple d'approche participative en matière d'environnement. Mais il remarque qu'après 25 ans d'existence, le BAP est présentement dû à une complète refonte, du moins de par les problèmes auxquels on a eu à faire face avec le temps.
Il faudrait qu'on se fasse une émission spéciale d'une semaine, comme un marathon radiophonique. On s'arrête ici parce que c'est déjà la fin. Au retour, coup de cœur, coup de masse et au calendrier. Merci beaucoup, Mélanie Roussel.
De rien.
Et c'est déjà la fin de Délirium environnemental, pour cette semaine. Hein, le 3 fait le mois, le saviez-vous? Ça va être le fun. Coup de cœur, coup de masse au calendrier, messieurs.
Mais moi, je peux pas m'empêcher. Jean Charest, qui est allé en Chine essayer de signer des contrats, qui dit devant la communauté internationale que les Québécois, on est admiratifs de ce que la Chine a fait dans les 40 dernières années. Ça n'a peut-être pas rapport avec l'environnement, là, mais ça prend un tapon de preneur pour dire une affaire de
même. J'aime ça quand t'es fâché.
Moi, j'ai un coup d'inquiétude. Cette histoire de l'eau de l'Escaire de Saint-Mathieu, soit en Abitibi, de mémoire, Amos, en fait, dans le secteur d'Amos, qui vont exporter 10 millions de caisses de 24 bouteilles d'eau d'Escaire en Chine l'année prochaine. On parle de 30 millions de caisses de 24 bouteilles d'eau qui pourraient prendre la direction de la Chine la deuxième année. C'est quoi? On n'avait plus d'eau
au Québec,
là. Ça va dans les poches de qui, ça, vous pensez?
Ça s'est rendu à peu près une compagnie par semaine, une source par semaine qui est volée par des intérêts étrangers. Hey, là, ça va trop mal. Moi, je vous fais un coup de cœur, en fait. Un coup de cœur, je vous invite à découvrir le blog de monsieur, je sais pas si on dit monsieur à son âge, mais de Steve Proulx. Vous vous souvenez, c'est l'auteur du livre Boycott qui avait dressé une liste de fiches des différentes entreprises à boycotter en priorité. Et il y a un blog qui est vraiment complet. J'y ai découvert plein de choses, entre autres 20 trucs pour réduire les produits chimiques dans notre assiette, mais aussi un site qu'il vous faut découvrir. Et pour le découvrir, il faudra passer par le blog de Steve Proulx qui est au www.steve-proulx.com. Le site s'appelle Pollution Watch. En tapant les deux ou trois premières lettres de mon code postal, j'ai réussi à savoir quelles étaient les différentes compagnie polluante à proximité de chez moi. Dernier, rapidement, coup de cœur, coup de masse, vos calendriers.
Faut absolument que je vous en parle. Allez visiter le www.caméraverte.org, caméraverte.org.
Oui.
Concours de court-métrage, 30 secondes à 5 minutes. Laissez-vous aller avec vos caméras sur les changements climatiques. Et c'est dans le cadre de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Plein de partenaires, plein de prix, des diffusions à gauche, à droite. Laissez-vous aller participer, caméraverte.org.
Hey, c'est malheureusement déjà ce qui va compléter des rayons environnemental. Je suis absolument désolée, mais le temps passe si vite en votre compagnie, messieurs. Et mesdames, maintenant, l'équipe de Délirium environnemental, parce que c'est déjà la fin.